Nous sommes dans le livre du prophète Malachie. Où se trouve ce livre? C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant l'évangile de Matthieu. Donc, nous continuons cette série. Nous arrivons au chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Mais avant de lire, je vais juste vous faire un petit rappel du contexte. Donc, Malachie, c'est donc le dernier livre prophétique de l'Ancien Testament, comme je l'ai dit. Ce prophète intervient environ 4 siècles avant Jésus-Christ, à un moment où le peuple d'Israël s'était complètement relâché et même détourné de Dieu après l'exil et après une période de renouveau du temps de Néhémie en particulier et d'Esdras. Dans un premier discours au chapitre 1, Dieu commence par affirmer l'amour qu'il a pour son peuple, même s'il n'approuve pas son comportement. Puis, il leur adresse une série de reproches sur lesquels nous reviendrons. J'avais évoqué des échanges très directs, un peu comme dans un match de boxe. Malachie poursuit sa remise en cause du peuple d'Israël avec un nouveau round dans ce match, un nouveau coup de poing, en quelque sorte, en interpellant avec un magistral « Vous me fatiguez, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles » dans notre texte que nous allons lire. Et je vous invite à écouter donc la lecture de Malachie 2, verset 17, jusqu'à 3, verset 5. Je lis dans la traduction du second 21. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal, c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu de la justice? Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est en suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Verset 4. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme autrefois, comme par le passé. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Un texte assez direct, assez dur. Verset 17 du chapitre 2, premier verset, « Dieu est fatigué d'entendre toujours les mêmes paroles d'Israël. » C'était tout le temps les mêmes murmures, les mêmes reproches, les mêmes mécontentements. Malachie leur dit tout net, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Mais de quoi s'agissait-il en fait? Avant d'entrer dans le vif du sujet, on peut déjà noter que Dieu n'hésite pas dans sa parole à exprimer sa lassitude et même sa colère. Ça peut des fois nous arriver de recevoir aussi ce genre de message. Peut-être que parfois on parle trop vite de l'amour et de la grâce de Dieu, alors qu'il faudrait aussi entendre les raisons de sa colère et, si besoin, nous remettre, le cas échéant, en question. Et lorsque Dieu se met en colère, lorsqu'il dit à son peuple « Vous me fatiguez », ça vaut le coup de s'intéresser au comportement qui dérange Dieu. Nous avons probablement des enseignements à en tirer pour nous-mêmes aujourd'hui. Quel était le reproche formulé envers Dieu? Eh bien, nous allons voir que le problème soulevé correspond à un problème que rencontrent tous les êtres humains. Dans les rounds précédents, Dieu avait d'abord mis en évidence leur manque de consécration. Le peuple célébrait le culte juste par devoir, par tradition, et non par sincérité. Et il offrait en sacrifice des animaux estropiés. le round suivant, dans le round suivant, les prêtres eux-mêmes, qui étaient censés enseigner le peuple, sont repris sévèrement. Ils déformaient l'enseignement, se comportaient mal et entraînaient le peuple dans de mauvaises voies. Dans un troisième discours, encore au chapitre 2, Dieu, par la bouche de Malachie, reproche aux hommes de s'être détournés de Dieu en ayant épousé des femmes étrangères qui adoraient d'autres dieux que l'Éternel. Il y avait aussi le problème des répudiations. En effet, les hommes quittaient leurs femmes pour en épouser d'autres, notamment des plus jeunes. Le peuple avait été mis en face de sa faillite, mais au lieu de réagir par la repentance, ils cherchent des excuses. Et leur stratégie de défense consiste à accuser Dieu. Nous n'avons pas été fidèles à l'alliance, mais regarde les gens qui ne te suivent pas et qui prospèrent, alors que nous sommes dans la misère. Ils reprochent à Dieu de ne pas punir le mal, en suggérant même que Dieu confond le bien et le mal. Et il dit au verset 17, la première partie du verset 17, « Dieu prend plaisir envers ceux qui font le mal. » De manière un peu sarcastique, il se demande même si Dieu est capable d'être juste vis-à-vis des méchants. Au travers de cette question qu'il pose, où est le Dieu de justice ? Où est le Dieu de la justice ? Dernière partie du verset 17. Le peuple réagit face à l'injustice en levant le poing vers Dieu. Ils cherchent un coupable extérieur à eux-mêmes, alors que le responsable du mal, c'est précisément l'être humain lui-même, c'est nous. Et cela remonte à Adam. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes associés à la faute d'Adam et à ses conséquences. Vous pouvez relire les trois premiers chapitres de la Genèse pour bien comprendre cela et vous en convaincre. À la création, Adam avait tout pour être heureux. Mais il a fait un autre choix que celui voulu par Dieu. Et les conséquences de ce choix, c'est le péché qui a été transmis à l'ensemble des descendants d'Adam jusqu'à nous. Donc, le peuple du temps de Malachie, comme nous aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas tenir Dieu pour responsable du mal et de l'injustice, alors que c'est nous qui sommes dans le sillon d'Adam et qui sommes responsables de ces injustices. D'où la colère légitime de Dieu au verset 17. Et comment réagissons-nous alors que nous sommes entraînés dans cette spirale que la Bible appelle le péché ? Est-ce que l'on reconnaît nos fautes ou est-ce qu'on cherche à les justifier ? On peut les minimiser, on peut se dire que ce n'est pas trop mauvais, parce qu'il y en a tellement d'autres qui font tellement pire que nous. C'est un peu comme si on remettait en cause toute la sagesse de Dieu, sa toute-puissance, son omniscience, etc. Et Dieu va répondre aux interrogations du peuple, mais pas comme le peuple pouvait s'y attendre. Le jugement de Dieu, en fait, va venir. Et ce jugement ne va pas s'abattre que sur les autres, que sur ceux qu'ils croient être des méchants, ou sur leurs ennemis. Non, Dieu a aussi l'intention de purifier son peuple et il annonce pour cela l'arrivée d'un messager qui va accomplir cette œuvre de purification. Et nous sommes maintenant dans la deuxième partie de notre texte, au verset 1 à 4. L'œuvre purificatrice du messager. Chapitre 3, verset 1, « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. » Pour être exact, il n'est pas question ici dans le verset 1 que d'une seule personne. On pourrait penser qu'il n'y a qu'un seul messager. Mais en fait, il y a deux messagers dans ce verset. La première personne, c'est un messager qui va préparer le chemin. Et la deuxième personne, là, on discerne l'œuvre, et dans ce premier messager, on discerne l'œuvre de Jean-Baptiste. Et par exemple, avec ce verset que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, qui dit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Et la deuxième personne, justement, mentionnée dans ce même verset, eh bien, c'est le Seigneur que vous cherchez, c'est le messager de l'Alliance, nous dit le texte, et c'est le maître de l'univers. Et là, ce n'est pas Jean-Baptiste. Là, c'est une personne qui peut s'identifier aussi bien à Dieu qu'à Jésus-Christ, son Fils. Et donc, nous avons là déjà une première affirmation prophétique de la divinité de Jésus-Christ. Et Malachie enchaîne avec les versets 2 et 3 qui précisent la mission et l'action de ce messager, le deuxième messager. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme autrefois, comme par le passé, pas comme du temps de Malachie. Donc ce deuxième messager est comparé à un feu purificateur et à la lessive des blanchisseurs. Le feu purificateur n'est pas un feu de forêt qui dévaste tout sur son passage, comme on a pu le voir cet été en Gironde et dans d'autres régions, mais c'est un feu ciblé, maîtrisé, qui œuvre sous un creuset dans lequel se trouve du minerai, mélange de cailloux, de poussière et d'oxyde métallique. Les scories, les parties impures, sont détruites par le feu ou sont isolées par le feu. Elles sont retirées par le fondeur, si bien que le métal précieux devient de plus en plus pur, au point que le fondeur peut même, au final, se voir comme dans un miroir, à condition de ne pas être trop près. La lessive du blanchisseur, alors aujourd'hui, ça n'existe plus trop. À l'époque, elle était certainement à base de potasse, donc très active, très puissante pour absorber les impuretés et donner tout son éclat au linge. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'au verset 3, le fondeur, il s'assied. Je n'avais jamais fait attention à cet élément. C'est que, en fait, le fondeur prend du temps. S'il s'assied, ça dure un certain temps, cette purification. Ça prend du temps. Et ça veut dire qu'il aime aussi le travail bien fait. Il n'aime pas le travail bâclé. Cette première cible de ce feu du fondeur, ce sont les descendants de Lévi, nous dit le texte. Autrement dit, les prêtres qui ont été infidèles et que Dieu veut réhabiliter. Ce sont les premiers concernés parce qu'ils portaient une grande responsabilité dans le laisser-aller du peuple. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, au début de l'Église, l'apôtre Jacques nous dit, au chapitre 3, verset 1 de son épître, « Ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. » C'est intéressant de voir que Jacques met le doigt sur la responsabilité des responsables dans une Église, de ceux qui enseignent, et que nous serons jugés plus sévèrement. Donc tous ceux qui ont une responsabilité dans l'enseignement des enfants, par exemple, ou dans les groupes de maison ou au culte, ceux qui ont une parole pour l'Église, eh bien, nous serons jugés plus sévèrement. Et donc nous devons prendre cela très au sérieux. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Si tout le monde parle, le message est moins distinctif. Mais la deuxième cible implicite de ce feu du fondeur, c'est le peuple tout entier, puisque le verset 4 étend le bénéfice de cette purification à l'ensemble de Juda et de Jérusalem. Ainsi, après cette purification, le peuple n'offrira plus d'animaux estropiés, comme auparavant, mais des offrandes vraiment consacrées à la gloire de Dieu. Les offrandes nouvelles sont agréables à Dieu parce que les cœurs et les vies ont été purifiés par le feu du fondeur, par la potasse d'Alsace, parce qu'il y a des mines de potasse en Alsace, par la potasse du blanchisseur. En fait, cette œuvre de purification dure toute une vie. Mais revenons à l'annonce de l'arrivée de ces deux messagers et à leur ministère. Comment, en fait, cette prophétie s'est-elle accomplie ? J'en ai déjà parlé. D'abord, Dieu a envoyé Jean-Baptiste comme un précurseur pour préparer la venue du Seigneur et annoncer la bonne nouvelle d'un plus grand que lui. Et Jean-Baptiste a accompli son ministère avec fidélité en baptisant du baptême de repentance, en ne mâchant pas ses mots. Par exemple, lorsque des pharisiens et des sadducéens veulent se faire baptiser, parce qu'il y en a eu qui ont voulu se faire baptiser, bien Jean-Baptiste, en Matthieu 3, verset 7, il leur dit « Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui, et il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Produisez plutôt des fruits, pour fruits des actes qui montrent que vous avez changé. » Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes des descendants d'Abraham », car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe d'un profond changement, mais quelqu'un qui vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, c'est-à-dire les enveloppes des grains, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Jean-Baptiste parle de repentance, de changement de vie dans le cadre des baptêmes qu'il pratiquait. Mais déjà, il annonce qu'avec Jésus-Christ, le baptême s'effectuera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Jésus est venu dans le monde pour accomplir cette œuvre de purification annoncée par Malachie. Et Malachie, dans son argumentation, parle d'une alliance qui ne peut être comprise, qui peut être comprise en se basant sur d'autres textes prophétiques, par exemple dans Jérémie 31, verset 31, comme une nouvelle alliance. En Jésus-Christ, c'est une nouvelle alliance. Et le Nouveau Testament confirme tout cela, par exemple dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 14 et 15, écoutez bien. « Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant ? » Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Nous sommes émerveillés, en tout cas, quand j'ai préparé cette prédication, par la cohérence et la continuité de la révélation biblique dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament. C'est vraiment... On ne peut pas imaginer que ce soit le fruit du hasard, toute cette logique qui est annoncée dans l'Ancien Testament, qui est réalisée avec Christ dans le Nouveau Testament, et tout ça qui nous est décrit dans la parole de Dieu, c'est vraiment époustouflant. Et le but de Dieu, c'est vraiment de nous offrir, de vous offrir à chacun, cet héritage éternel qu'il avait promis à son peuple dans l'Ancien Testament, en l'élargissant tous les hommes, juifs et non-juifs, dont nous sommes. Donc, à chacun de nous. Et ce rappel est une excellente transition pour aborder le dernier verset de notre texte, le verset 5, qui annonce le jugement final de Dieu. Le jugement final de Dieu. Je m'approcherai de vous pour le jugement, dit Dieu. Et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens, les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel, le maître de l'univers. C'est le maître de l'univers qui parle, ce n'est pas un petit prophète ou un être humain. C'est le maître de l'univers. Donc Dieu répond de manière très précise à l'objection de départ qui s'interrogeait sur l'existence même d'une justice, en disant au début du texte, où est le Dieu de justice ? Où est le Dieu de justice ? Dieu répond de manière très claire, très précise dans ce verset. Il dit littéralement qu'il va s'empresser de témoigner contre ceux qui pêchent et qui ne le craignent pas. Voilà la justice de Dieu. Elle est à venir et immédiate quand elle arrivera. Jésus, dans sa mission de messager d'une alliance nouvelle, est venu offrir aux hommes le chemin du salut, le chemin de l'héritage éternel évoqué par l'épître aux Hébreux que nous avons lu. Chacun est placé devant un choix. Ici, vous qui êtes devant moi ou qui nous écoutez, eh bien, vous êtes placé devant un choix. Soit accepter cet héritage qui est offert, soit alors continuer à ne pas craindre Dieu en continuant à vivre et à se complaire dans le péché, comme les magiciens, c'est le texte qui parle, les magiciens, les adultères, les menteurs, ceux qui exploitent le salarié, ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, et vous pourrez compléter la liste, vous le comprenez, c'est autrement dit tous ceux qui sont pécheurs et qui vivent sans connaître ou sans mettre en pratique la volonté de Dieu. Dieu offre ce choix, il nous offre, il vous offre à chacun aujourd'hui ce choix. Il ne contraint pas à accepter la voie du salut. On voit pas dans la parole une contrainte pour accepter le salut en Jésus-Christ. Il y a des encouragements à le faire, nombreux, certes, mais il n'y a pas d'obligation. C'est d'ailleurs une anecdote au passage, c'est qu'on dit souvent que s'il y a obligation d'aimer quelqu'un, il ne peut pas y avoir d'amour. Je ne peux pas aimer quelqu'un si je suis obligé. L'amour doit être un choix volontaire, sinon ça ne mérite pas le mot amour. Et là, c'est pareil avec Dieu. Dieu nous offre le salut par amour, mais il ne nous oblige pas. Nous sommes libres de refuser cette offre de salut. Donc Dieu offre ce choix, mais il ne contraint pas à accepter la voie du salut. Et ceux qui se complaisent dans le péché le font volontairement et consciemment. Ils ne pourront pas dire un jour « je ne savais pas ». Et c'est à nous de leur annoncer la grâce de Dieu qui est disponible gratuitement. C'est à nous aussi de ne pas masquer l'information sur les conséquences du jugement de Dieu, du jugement dernier. Et je vais faire plaisir à Emmanuel, notre libraire dans l'Église. Je vais faire référence à cet ouvrage de théologie systématique qui est de Wayne Grudem. Bon, c'est un livre un peu épais, mais qui est très accessible, qui nous présente plusieurs effets positifs de la doctrine du jugement dernier sur notre vie personnelle. Chaque argument se fonde sur différents textes bibliques. Alors, je vais recopier l'essentiel, là. Premièrement, la doctrine du jugement dernier répond à notre besoin de justice. S'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de justice. Si, pour les limitations de vitesse, vous n'avez pas quelque part un radar et une amende qui tombe quand vous dépassez, pas respecté. Donc, la doctrine, le fait qu'il y aura un jugement dernier nous assure qu'au bout du compte, l'univers que Dieu a créé est juste, car Dieu est maître de tout, il tient des comptes précis et rend un juste jugement. Et vous voyez qu'il intervient dans tous les domaines. Les magiciens, ceux qui travaillent dans le domaine occulte, les adultères, les infidélités, comme on a vu déjà dans la prédication précédente, les menteurs, ceux qui exploitent le salarié. Bon, avec les grèves, on entend souvent parler d'injustice, etc. Mais bon, il y a des situations où il y a de l'exploitation des salariés, en France comme partout dans le monde, des pays peut-être encore plus que chez nous, ce qui opprime la veuve et l'orphelin. Bon, il y a des pays où les veuves et les orphelins sont, on n'en prend pas soin, ils sont opprimés. Voilà. Et Dieu intervient dans tous les domaines, c'est-à-dire du péché, il juge tous les domaines du péché. Donc, on ne peut pas dire, ah oui, mais ça c'est un petit péché, il n'y a que moi qui le connais. Dieu, il connaît et il intervient et il juge dans tout. Donc, la doctrine du jugement répond à notre besoin de justice dans le monde. Deuxièmement, la doctrine du jugement dernier nous permet de pardonner aux autres librement. Nous prenons conscience que ce n'est pas à nous de nous venger de ceux qui font le mal, ni même de vouloir le faire, car c'est Dieu qui s'est réservé ce droit. Ça nous délivre d'une contrainte. Souvent, on a envie. Ah, il m'a fait ça, mais il va le payer. Ah, il va le payer. Oui, on a envie de faire ça, mais c'est réservé à Dieu. Dieu assurera ça au moment du jugement dernier. C'est dans cet ouvrage que j'ai trouvé ces arguments très intéressants. Troisièmement, la doctrine du jugement dernier nous encourage à vivre selon la justice. Pour les croyants, le jugement dernier est un encouragement à la fidélité et aux bonnes œuvres, non comme un moyen d'obtenir le pardon des péchés, mais comme un moyen d'obtenir une plus grande récompense éternelle, dont parle la Bible. Et donc, c'est un encouragement à vivre selon la justice. Et le quatrième point, qui est pour moi celui qui m'a le plus touché, c'est que les décisions que les gens prennent ici-bas affecteront leur destinée pour l'éternité. Les décisions concernant le salut prises sur la terre, elles engagent toute l'éternité. Et il est normal que notre cœur soit touché, que notre bouche se fasse l'écho de l'appel que Dieu adresse par Ézéchiel. Ézéchiel, dans notre livre prophétique, chapitre 33, verset 11, nous dit « Détournez-vous, détournez-vous de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, Jean d'Israël ?» Et on peut rajouter Jean de Moret, Loin et Orvan, dans le sud de Seine-et-Marne, mais également dans le restant du monde. Oui, ce dernier verset de notre texte de Malachie, qui annonce le jugement dernier de Dieu, a donc pour nous deux finalités. Pour ceux qui ne sont pas encore répondu positivement à Christ, à l'appel de Dieu, à la repentance, cela les place devant leur situation de mort éternelle à l'issue du jugement dernier. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Il ne faut pas la masquer. Pour nous, les croyants qui avons accepté le salut en Jésus-Christ, eh bien, cela doit nous aider à pardonner aux autres plus librement. Cela doit nous encourager à vivre dans la fidélité au Seigneur et dans la pratique de bonnes œuvres. Et cela doit nous encourager à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ sans occulter la mauvaise nouvelle de la mort éternelle pour ceux qui ne veulent pas se convertir à Jésus-Christ. C'est toujours plus facile d'annoncer aux autres une bonne nouvelle, de dire le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, le Seigneur... Oui, c'est très bien et il faut le dire. Mais il ne faut pas masquer que le Seigneur aussi sera celui qui nous jugera au final. Que Dieu nous aide dans notre vie chrétienne, dans notre zèle pour l'annonce de l'Évangile et aussi pour l'annonce du jugement dernier. Prions. Seigneur, on veut te bénir pour la richesse de ta parole, pour sa clarté, pour sa cohérence, pour sa cohésion. Et nous sommes vraiment encouragés par ces messages de Malachie, par ces paroles qui nous confortent dans notre choix de marcher avec toi. Merci Seigneur, parce que tu as tout prévu pour notre salut. Tu as envoyé un premier messager pour préparer la venue de Jésus, et ensuite tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, par qui nous sommes réellement sauvés, Seigneur. Et on veut te dire un grand merci. Que tu nous aides à concrétiser dans notre vie de tous les jours ces réalités que nous avons en Jésus-Christ, ces réalités d'une vie pardonnée, d'une vie où nous sommes vraiment encouragés à pratiquer de bonnes œuvres et à aller de l'avant avec toi. Que tu bénisses, Seigneur, chaque personne ici présente, chaque famille représentée. que chacun soit vraiment conscient de ses responsabilités, soit pour t'accepter si ce n'est pas encore fait, soit pour marcher plus fidèlement avec toi si la personne t'a accepté. C'est au nom de Christ que je te prie. Amen.